Henry James, un portrait de femme, chapitre 51. La comtesse, sans être bannie, comprit qu'il eût été imprudent de trop tabler sur l'hospitalité fraternelle. Une semaine après cet incident, Isabelle reçut un télégramme d'Angleterre, timbré de Garden Court et bien marqué au sceau du style de Mrs. Touchett. « Ralph, hors d'état de tenir longtemps, disait la dépêche, aimerait vous voir si possible. » Me prie vous dire ne venir que faute d'autres obligations. Dis-moi que parliez volontiers de devoir et cherchiez où il était. Suis curieuse de savoir s'il avait découvert. Ralph vraiment mourant et sans autre compagnie. » Isabelle était préparée à cette nouvelle, car elle avait reçu d'Henriette Stackpole un compte-rendu détaillé de son voyage avec un malade reconnaissant. Si Ralph était arrivé plus mort que vif, elle avait réussi pourtant à le conduire jusqu'à Garden Court, où elle avait pris le lit pour ne plus certainement le quitter, comme écrivait Miss Stackpole. Elle ajoutait qu'elle avait en somme en deux malades au lieu d'un sur les bras, car Mr. Goodwood, qui n'avait pas fait montre de la moindre utilité, était tout aussi souffrant à sa façon que Mr. Touchett. Dans une seconde lettre, elle racontait qu'elle avait dû céder la place à Mrs. Touchett, qui venait de rentrer d'Amérique, et lui avait signifié sans embâge qu'elle n'entendait pas fournir de sujet d'articles de journaux. Isabelle avait écrit à sa tante, peu après l'arrivée de Ralph à Rome, pour l'informer de son état critique et lui conseiller de hâter son retour en Europe. Mrs. Touchett l'avait remerciée par dépêche et n'avait plus donné signe de vie à sa nièce avant le second télégramme que je viens de mentionner. Isabelle resta un moment immobile, les yeux fixés sur le message, puis le mettant dans sa poche, elle se dirigea vers le bureau de son mari. Elle eut une seconde d'hésitation avant d'ouvrir la porte, puis entra. Osmonde, assis à sa table, près de la fenêtre, consultait un volume in-folio appuyé contre une pile de livres. Le volume s'ouvrait sur une page de menus gravures en couleur, et Isabelle vit que son mari copiait un dessin de monnaie antique. Devant lui reposait une boîte d'aquarelles et des pinceaux fins, et il venait de reporter sur une feuille immaculée le disque élégant avec ses teintes délicates. Il tournait le dos à la porte, mais ne reconnut pas moins sa femme sans lever les yeux. « Pardonnez-moi de vous déranger, dit-elle. »« Quand j'entre chez vous, je frappe toujours, répondit-il sans interrompre son travail. « J'ai oublié, j'avais un autre sujet de préoccupation. Mon cousin est mourant. »« Oh, je n'en crois rien, fit Osmonde, en considérant son dessin à la loupe. « Il était déjà mourant quand nous nous sommes mariés. Il nous enterrera tous. » Isabelle ne prit ni le temps ni la peine d'apprécier le cynisme voulu de cette affirmation et tout à sa préoccupation se contenta de poursuivre vivement. « Ma tante vient de me télégraphier. Il faut que j'aille à Garden Court. »« Pourquoi faut-il que vous y alliez ?» demanda Osmonde sur un ton de curiosité impartiale. « Pour revoir Ralph avant sa mort. » Il resta un moment sans répondre, fixant toute son attention sur sa besogne, dont la minutie ne souffrait pas la moindre négligence. « Je n'en vois pas la nécessité, » dit-il enfin. « Il est venu nous voir ici. Je n'en ai pas été satisfait. Sa présence à Rome m'a fait l'effet d'une inconvenance. » Je l'ai toléré parce que ce devait être la dernière fois que vous vous voyiez. Et maintenant, vous me dites que ce n'était pas la dernière fois. Ah, vous me remerciez mal. De quoi faut-il vous remercier ? Gilbert Osmonde posa ses petits ustensiles, chassa une parcelle de poussière de son papier, se leva lentement et, pour la première fois, regarda sa femme. De n'être pas intervenu quand il était ici. « Oh, je vous en ai su gré. Je me souviens que vous m'avez laissé clairement comprendre votre déplaisir. J'ai été très heureuse de voir partir Ralph. »« Alors laissez-le tranquille, ne lui courez pas après. » Isabelle détourna ses yeux qui se posèrent sur le travail de son mari. « Il faut que j'aille en Angleterre, » fit-elle, non sans se rendre compte que pour un homme de goût quelque peu irritable, de telles paroles risquaient d'indiquer un entêtement stupide. « Ce voyage ne me plaît pas du tout, » déclara Osmonde. « Pourquoi m'arrêterai-je à cette considération ? Vous ne serez pas plus content si j'y renonce. Rien ne vous plaît de ce que je fais ou ne fais pas. Vous semblez toujours m'accuser de mensonge. » Osmonde se retourna. Il était un peu pâle et souriait froidement. « Alors c'est cela qui vous fait partir. Ce n'est pas pour voir votre cousin, c'est pour vous venger de moi. » « Je n'ai pas la moindre idée de vengeance. »« Moi j'en ai, » dit Osmonde. « Ne m'en fournissez pas le prétexte. Vous n'avez que trop le désir d'en trouver. » Vous souhaitez profondément que je commette une folie. S'il en était ainsi, je serais enchantée que vous me désobéissiez. Que je vous désobéisse, fit Isabelle, dont la voix basse prit un singulier accent de douceur. Soyons précis, Si vous quittez Rome aujourd'hui, vous commettez un acte calculé et décidé d'opposition à ma volonté. Comment s'agirait-il d'un acte calculé quand je viens de recevoir un télégramme à l'instant ? Vous calculez vite, c'est un talent remarquable. Je ne vois pas pourquoi nous prolongerions cette discussion. Vous connaissez mon désir. » Et il resta immobile comme s'il eût attendu que sa femme se retirât. Mais elle ne bougeait pas, et pour étrange que la chose puisse paraître, ne pouvait faire un mouvement. Elle voulait encore se justifier, et son mari possédait, à un point extraordinaire, le pouvoir de lui faire éprouver ce besoin. Il y avait dans le cœur d'Isabelle, et contre son jugement même, un sentiment auquel il pouvait toujours faire appel. « Vous n'avez pas de raison d'exprimer un tel désir, dit-elle, et moi j'ai toute raison de partir. Je ne puis vous dire combien vous me semblez injuste. Je crois que vous le savez. C'est votre opposition à vous qui est calculée et volontairement hostile. » Elle n'avait encore jamais dit à Osmond le fond de sa pensée, et c'était évidemment pour lui une impression nouvelle. Il ne montra pourtant pas de surprise, et sa froideur même dénonça qu'il s'était attendu à ce que sa femme ne résistât pas jusqu'au bout à ses tentatives ingénieuses pour la faire sortir de ses gonds. « Elle n'en est donc que plus précise, répondit-il, pour ajouter presque aussitôt, comme s'il se fût agi d'un conseil amical. C'est une question fort importante. » Elle ne l'ignorait pas, et appréciait pleinement la gravité de l'heure. Elle savait qu'ils étaient arrivés à une crise dont l'acuité méritait une grande attention. Elle ne répondit pas, et le laissa poursuivre. « Vous prétendez que je n'ai pas de raison valable. Or, j'ai la meilleure des raisons. Votre intention me blesse, au fond du cœur. » Elle est laide, indélicate, inconvenante. Votre cousin ne m'est rien, et je ne suis tenue envers lui à aucune obligation. Je lui ai déjà fait les plus belles concessions. Vos rapports avec lui pendant son séjour à Rome m'ont tenue sur des épingles, mais j'ai laissé faire parce que, de semaine en semaine, j'attendais son départ. Je ne l'ai jamais aimé, pas plus qu'il ne m'aime. C'est cela qui vous plaît en lui, c'est qu'il me déteste, fit Osmond, avec un tremblant de voix furtif et à peine perceptible. Je me fais une haute idée de ce que ma femme doit et ne doit pas faire. Il ne sied pas qu'elle traverse seule l'Europe, au mépris de ma répugnance affirmée, pour aller s'installer au chevet d'un autre homme. Votre cousin ne vous est rien, ne nous est rien à nous. Ce « nous » vous fait sourire, mais je vous assure, Mrs. Osmond, que je ne connais que « nous ». Je tiens notre mariage pour sérieux. Vous paraissez avoir pris la résolution de n'en rien faire. Je ne sache pas que nous soyons divorcés ou séparés, car nous sommes indissolublement unis. Vous êtes plus proche de moi que personne au monde, et je suis plus proche de vous. Pareille proximité peut être déplaisante, elle est du moins le fait de notre volonté réfléchie. Vous n'aimez pas qu'on vous rappelle cette obligation, je le sais, mais moi je ne m'y oppose pas, parce que... Il s'arrêta un moment comme s'il eût eu à prononcer un dernier mot décisif. Parce que nous devons accepter les conséquences de nos décisions, et que ce que j'apprécie le plus dans la vie, c'est l'honorabilité des actes. Il parlait gravement, et avec une sorte de douceur, sans plus recourir à son ton de sarcasme. Isabelle sentit s'émouvoir sa sensibilité, cependant que s'empêtrait dans un réseau de fils ténus la résolution avec laquelle elle était entrée dans la pièce. Les dernières paroles d'Osmond ne représentaient pas un ordre, mais une sorte de prière, et tout en sentant que toute expression de respect de sa part ne pouvait être qu'un raffinement d'égoïsme, elle leur trouvait quelque chose de transcendant et d'absolu, comme un signe de croix sur un drapeau national. Il parlait au nom d'une tradition précieuse et sacrée, au nom de l'observance d'une forme magnifique. Ils étaient, en esprit, aussi loin l'un de l'autre que le furent jamais amants désillusionnés, mais ils ne s'étaient encore jamais formellement séparés. Isabelle n'avait pas changé. Sa vieille passion de justice l'habitait encore et commençait, malgré sa pleine pénétration de sophismes blasphématoires, à vibrer en elle d'une façon qui faillit un moment assurer la victoire de son mari. Elle songea que, dans son désir de sauver les apparences, il était après tout sincère, et que ce désir même n'allait pas sans mérite. 10 minutes plus tôt, elle sentait toute la joie de l'action irréfléchie, joie à laquelle elle était restée si longtemps étrangère. Mais, sous le souffle flétrissant d'Osmond, son désir d'action s'était mué en un terne renoncement. Cependant, elle ne voulait pas renoncer sans laisser comprendre qu'elle était moins dupe que victime. « Je connais votre maîtrise dans l'art de l'ironie, dit-elle. Comment pouvez-vous parler d'union indissoluble? Comment pouvez-vous vous dire satisfait? Que devient notre union quand vous m'accusez de fausseté? Où placez-vous votre satisfaction quand vous n'abritez dans votre cœur que des soupçons hideux ?»« Elle consiste à vivre convenablement malgré toutes ces difficultés. »« Nous ne vivons pas du tout convenablement, » protesta Isabelle. « À coup sûr pas si vous allez en Angleterre. Cela a si peu d'importance, si peu, je pourrais faire bien pis. » Il leva légèrement les sourcils et même les épaules, selon une mimique qu'il avait adoptée à force de vivre en Italie. « Ah, si vous êtes venu me menacer, j'aime mieux mes médailles !» Et faisant un pas vers la table, il y prit la feuille de papier sur laquelle il avait travaillé et se mit à l'étudier. « Je suppose que si je pars, vous ne me demanderez pas de revenir, » fit Isabelle. Il se tourna vivement, et elle comprit que ce mouvement-là, du moins, n'était pas calculé. Il la regarda un moment, puis « Avez-vous perdu l'esprit ? » demanda-t-il. « Comment pourrions-nous éviter une rupture ? » reprit-elle, « si tout ce que vous dites est exact. Cette rupture, elle ne voyait pas le moyen de l'éluder, malgré son sincère désir de trouver une échappatoire. » Il s'assit à sa table. « Je ne vais pas discuter avec vous quand vous me défiez ouvertement, » déclara-t-il, en reprenant ses pinceaux. Elle ne s'attarda que le temps d'embrasser du regard la silhouette volontairement impassible et cependant fort expressive d'Osmonde, puis elle sortit précipitamment. Faculté, énergie, passion, tout sombrait en son être. Il lui semblait qu'une brume froide et sombre s'était soudain épaissie autour d'elle. Osmonde possédait au suprême degré l'art de mettre toutes les faiblesses en lumière. En regagnant sa chambre, elle trouva la comtesse Gemini debout à l'entrée d'une petite pièce où l'on avait réuni une collection de livres disparates. Un livre à la main, la comtesse venait de jeter les yeux sur une page qui ne paraissait pas beaucoup l'intéresser. Au bruit des pas d'Isabelle, elle leva la tête. « Ah, ma chère, » fit-elle, « vous qui êtes si cultivée, indiquez-moi un livre amusant à lire. Tout cela est d'un ennui. Croyez-vous que celui-ci soit possible ?» Isabelle regarda le titre du volume que l'autre lui tendait, mais sans le voir ni le comprendre. « Je ne puis guère vous conseiller, je viens de recevoir de mauvaises nouvelles. Mon cousin Ralph Touchett est mourant. » La comtesse Gemini laissa tomber son livre. « Ah, il était si simpatico. J'en suis bien attristée pour vous. Vous le seriez plus encore si vous saviez tout. »« Qu'y a-t-il à savoir ? Vous avez bien mauvaise mine, » dit la comtesse. « Vous venez de voir Osmonde ?» Une demi-heure plus tôt, Isabelle aurait accueilli très froidement la supposition qu'elle pût jamais chercher la sympathie de sa belle-sœur, et l'on ne saurait trouver preuve meilleure de son désarroi que la façon dont elle répondit à la question distraite de la comtesse. « Oui, je viens de le voir, acquiesça-t-elle. » Cependant que sa belle-sœur la couvait du regard. « Je suis sûre qu'il a été odieux, » fit celle-ci. « A-t-il dit qu'il était heureux de la mort du pauvre Mr. Touchett ?»« Il dit qu'il est impossible que je parte pour l'Angleterre. » La comtesse avait un esprit agile quand ses intérêts étaient en jeu. Elle prévoyait déjà que c'en était fini de tout éclat pour le reste de son séjour à Rome. Ralph Touchett allait mourir, Isabelle prendrait le deuil, et il ne serait plus question de grand dîner. Cette perspective lui arracha tout d'abord une grimace expressive, mais ce jeu de physionomie rapide et pittoresque fut son seul tribut à sa déception. Après tout, se dit-elle, la comédie était presque finie, et elle avait déjà prolongé outre mesure son séjour. Au surplus, elle prenait assez à cœur le chagrin d'Isabelle pour oublier le sien, et elle voyait que ce chagrin était profond. Plus profond même que ne l'expliquait la mort d'un cousin, et la comtesse n'hésita pas à rapporter l'expression des yeux de sa belle-sœur à l'exaspérante personnalité de son frère. Son cœur battait d'un espoir presque joyeux, car si elle souhaitait voir Osmonde dominer, les circonstances paraissaient favorables. Évidemment, si Isabelle partait pour l'Angleterre, il ne lui resterait plus à elle-même qu'à quitter le palais Rocanera. Rien ne pouvant l'inciter à y demeurer avec Osmonde. Elle n'éprouvait pas moins l'immense désir d'entendre Isabelle se décider au départ. « Rien n'est impossible pour vous, ma chère, » fit-elle d'un ton doucereux. « À quoi vous servirait sans cela d'être riche, intelligente et bonne ?»« À quoi, en effet ? Je me sens d'une faiblesse stupide. » « Pourquoi Osmonde déclare-t-il ce voyage impossible ?» insista la comtesse, d'un ton qui disait assez qu'elle ne pouvait imaginer ses raisons. Mais à se sentir ainsi interrogée, Isabelle se replia sur elle-même et retira la main dont la comtesse s'était affectueusement saisie. Elle n'en répondit pas moins avec une amère franchise. « Parce que nous sommes si heureux ensemble que nous ne pouvons nous quitter même pour une quinzaine. »« Ah !» s'écria la comtesse, tandis qu'Isabelle se détournait. « Quand je veux faire un voyage, mon mari me déclare simplement qu'il ne me donnera pas d'argent. » Isabelle se retira dans sa chambre, où elle se mit pendant une heure à marcher de long en large. Certains lecteurs pourront l'accuser de se tourmenter bien en vain, et il est certain que pour une femme à l'esprit indépendant, elle se laissait arrêter par un obstacle médiocre. Il lui semblait mesurer pleinement, pour la première fois, l'importance du mariage. Être mariée, cela voulait dire que si l'on avait à choisir dans un cas pareil, on choisissait son mari. « J'ai peur, « Oui, j'ai peur », se dit-elle plus d'une fois, en s'arrêtant dans sa marche. Ce qui lui faisait peur, d'ailleurs, ce n'était pas son mari, sa colère, sa haine, sa vengeance. Ce n'était même pas la perspective du jugement qu'elle porterait un jour sur sa propre conduite, considération qui avait souvent suspendu ses décisions. C'était seulement l'acte de violence qu'elle allait commettre, en partant, quand Osmonde voulait qu'elle restât. Un abîme de dissentiment s'était creusé entre eux, mais il n'en gardait pas moins le désir qu'elle demeurât près de lui, et considérait avec horreur l'idée de son départ. Elle n'ignorait pas la finesse de sa sensibilité aux objections. Ce qu'il était capable de lui dire, elle l'avait éprouvé. Mais malgré tout, ils étaient mariés, et le mariage voulait qu'une femme s'attachât à l'homme avec lequel elle avait prononcé des vœux formidables devant l'autel. Elle finit par s'affaler sur un sofa et enfouit son visage dans une pile de coussins. Quand elle releva les yeux, la comtesse Gemini était devant elle. Elle était entrée sans bruit. Un étrange sourire se jouait sur ses lèvres minces, et son visage avait, depuis une heure, pris une expression significative. On peut dire qu'elle se tenait toujours à la fenêtre de son propre esprit, mais à ce moment-là, elle se penchait bien au dehors. « J'ai frappé, expliqua-t-elle, et vous ne m'avez pas répondu. Alors je me suis risquée. Voilà 5 bonnes minutes que je vous regarde. Vous êtes bien malheureuse. » « Oui, mais je ne crois pas que vous puissiez me consoler. Voulez-vous me permettre de l'essayer ?» Et la comtesse s'assit sur le sofa près d'Isabelle. Elle continuait à sourire, et il y avait quelque chose de communicatif et de triomphal dans son expression. Elle semblait avoir bien des choses à dire, et il apparut pour la première fois à Isabelle que sa belle-sœur pouvait prononcer des paroles vraiment humaines. Elle faisait jouer ses yeux brillants, d'où se dégageait une fascination déplaisante. « Avant tout, reprit-elle, je dois vous avouer que je ne comprends pas votre état d'esprit. Vous paraissez avoir tant de scrupules, tant de raisons, tant de chaînes. Quand je me suis aperçue il y a 10 ans que le plus cher désir de mon mari était de me rendre malheureuse, depuis quelque temps il me laisse simplement tranquille. Ah, quelle merveilleuse simplification cela fut! Vous n'êtes pas assez simple, ma pauvre Isabelle. » Non, je ne suis pas assez simple, avoua Isabelle. Il y a une chose que je veux vous dire, parce qu'il me semble que vous devriez la savoir. Peut-être la savez-vous, peut-être l'avez-vous devinée, mais tout ce que je puis dire dans ce cas, c'est que je comprends moins encore ce qui vous empêche d'agir à votre gré. « Que voulez-vous dire ? » demanda Isabelle, dont un pressentiment faisait battre le cœur. La comtesse allait se justifier, et ce fait seul était remarquable, mais il lui plaisait de jouer un moment avec son sujet. « À votre place, j'aurais deviné depuis des années. Vous n'avez vraiment jamais eu de soupçons ?»« Je n'ai rien deviné. Qu'y avait-il à soupçonner ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » « C'est parce que vous avez un esprit prodigieusement pur. Je n'ai jamais vu de femme à l'esprit si pur !» s'écria la comtesse. Isabelle se leva lentement. « Vous allez me dire quelque chose d'atroce. Appelez-le comme vous voudrez. » Et la comtesse se leva aussi comme pour animer d'une vie redoutable son épanchement de perversité. Elle resta un moment debout, dans un rayonnement d'intention perfide et de laideur, comme en jugea Isabelle. Puis elle lança « Ma première belle-sœur n'a pas eu d'enfant. » Isabelle la regarda, déconcertée par cette entrée en matière. « Votre première belle-sœur ? » ?»« Vous devez savoir, si l'on peut y faire allusion, qu'Osmonde s'était mariée en première noce. Je ne vous ai jamais parlé de sa femme, jugeant que ce n'était ni convenable ni respectueux. Mais d'autres gens, moins pointilleux, ont dû le faire. La pauvre petite femme a vécu 3 ans à peine et est morte, sans enfant. Ce n'est qu'après sa mort que pensée est arrivée. » Le front d'Isabelle se contractait. Une vague et pâle stupeur écartait ses lèvres. Elle s'efforçait de suivre. Il y avait tellement plus à suivre qu'elle ne pouvait le comprendre. « Alors, pensée n'est pas la fille de mon mari ?»« De votre mari, si fait, mais pas du mari d'une autre. »« De la femme d'un autre. » « Ah, ma bonne Isabelle !» s'écria la comtesse. « Avec vous, il faut mettre les points sur les i. »« Je ne comprends pas. De la femme de qui ?» demanda Isabelle. « De la femme d'un affreux petit Suisse, qui est mort il y a 12 ans, 15 peut-être. Il n'a jamais reconnu Mademoiselle Pensée, et sachant ce qu'il en était, n'a jamais voulu entendre parler d'elle. Il n'avait d'ailleurs aucune raison de le faire. C'est Osmonde qui s'en est chargé, et cela valait mieux. » Malgré la peine qu'il a dû prendre plus tard pour raconter que sa femme était morte en couche et que dans son chagrin et son horreur, il avait banni aussi longtemps que possible l'enfant de sa vue avant de la retirer de nourrice. En réalité, n'est-ce pas, sa femme était morte d'une toute autre maladie et dans un tout autre endroit, dans les montagnes du Piémont, où ils étaient allés passer le mois d'août, parce que sa santé semblait réclamer l'air pur, mais où son état empira soudain de façon fatale. L'histoire passa suffisamment, elle s'accordait assez avec les apparences pourvu que l'on ne cherchât pas de précision. Mais moi je n'ai pas eu besoin d'enquête, poursuivit la comtesse, pour tout comprendre, comme vous allez comprendre aussi, et sans qu'il y eût un mot échangé entre nous, je veux dire entre Osmonde et moi. Ne le voyez-vous pas me regarder en silence pour arranger la chose ? Entendez, pour m'arranger moi, si je souffle les mots. Je n'ai rien dit à personne, pas un mot à âme qui vive, si vous pouvez le croire de moi. Sur mon honneur, ma chère, je vous parle de cette affaire aujourd'hui, après si longtemps, comme je n'en ai jamais, jamais parlé. Il devait me suffire d'emblée que la petite fût ma nièce, puisqu'elle était la fille de mon frère. Quant à sa véritable mère... À ce moment, la remarquable tante de pensée se tut presque involontairement, tant l'impressionnait le visage de sa belle-sœur, dont les yeux la regardaient comme elle n'avait jamais été regardée. Elle ne prononçait pas de nom, et pourtant Isabelle eut peine à contenir, sur ses propres lèvres, l'écho de mots qui n'avaient pas été proférés. Elle se laissa retomber sur le sofa, la tête penchée. « Pourquoi me dites-vous cela ? » demanda-t-elle d'une voix que la comtesse eut peine à reconnaître. « Parce que je trouvais exaspérant que vous n'en fussiez pas informée. Franchement, ma chère, je m'en voulais de ne vous avoir rien dit. Comme si je n'aurais pas dû y arriver depuis le temps. Ça me dépasse, si vous me permettez de le dire, tout ce que vous semblez avoir réussi à ne pas saisir autour de vous. C'est une sorte de sauvetage, d'aide à l'ignorance innocente, où j'ai toujours été assez maladroite. Et dans cette obligation de me taire au nom de mon frère, mon courage a fini par se trouver à bout. » Maintenant, croyez bien qu'il ne s'agit pas d'un mensonge éhonté. Les faits sont exactement tels que je vous les rapporte. Je n'avais pas le moindre soupçon, fit Isabelle au bout d'un moment. Et elle regarda sa belle-sœur d'une façon qui semblait souligner l'apparente absurdité d'un pareil aveu. C'est bien ce que je pensais, quoique ce ne fût pas facile à croire. Alors vous ne vous êtes jamais douté qu'il a été 5 ou 6 ans son amant? Je ne sais pas. J'avais parfois des pensées obscures, et c'est sans doute cela qu'elle signifiait. Elle a été d'une admirable, d'une prodigieuse adresse avec pensée, s'écria la comtesse, sans s'arrêter aux paroles de sa belle-sœur. Aucune idée n'avait jamais pris en moi cette forme définie, continuait Isabelle, qui semblait s'attacher à découvrir ce qu'elle avait ou non confusément pressenti. Et, en définitive, je ne comprends pas. Elle parlait comme une femme intriguée et dolente, ce qui n'empêchait pas la pauvre comtesse de trouver que sa révélation n'avait eu qu'un piètre effet. Là où elle s'attendait à voir jaillir l'incendie, elle tirait à peine une étincelle. Isabelle ne se montrait guère plus impressionnée qu'elle ne l'eût été en imagination par le récit de quelques faits divers sinistres. « Ne voyez-vous pas, reprit la comtesse, que l'enfant ne pouvait passer pour celui de son mari auprès de M. Merle lui-même ? Ils étaient depuis trop longtemps séparés pour cela, et il était parti pour quelque pays lointain, l'Amérique du Sud, je crois. Si elle avait jamais eu des enfants, ce dont je ne suis pas sûre, elle les avait perdus. » La situation se trouvait justement rendre possible à Osmonde, vu l'urgence de circonstances aussi embarrassantes, la reconnaissance de sa paternité. Sa femme était morte, c'est vrai, mais elle n'était pas morte depuis assez longtemps pour permettre de discuter un arrangement de date, du moment, je le répète, que les soupçons n'étaient pas éveillés, ce qui fut l'objet de leurs soins. Quoi de plus naturel, à distance, pour un monde qui ne s'inquiétait pas de Vétille, quoi de plus naturel pour cette pauvre Mrs. Osmonde que d'avoir laissé derrière elle, poverina, le fruit d'un court bonheur qui lui avait coûté la vie. Grâce à un changement de résidence, Osmonde habitait Naples au temps de leur séjour dans les Alpes, et en temps voulu quitta pour toujours la ville, toute l'histoire fut répandue avec plein succès. Ma pauvre belle-sœur dans sa tombe ne pouvait pas protester. Et la véritable mère, pour sauver la face, renonça à tout droit visible sur l'enfant. « Ah, pauvre femme !» s'écria Isabelle, qui fondit soudain en larmes. Il y avait longtemps qu'elle n'en avait pas versé. Elle croyait avoir renoncé aux pleurs. Mais elle coulait maintenant, avec une abondance qui devenait pour la comtesse Gemini un nouveau sujet de stupeur. « C'est bien de la bonté à vous de la plaindre » fit-elle avec un rire discordant. « Oui, en effet, vous avez une façon particulière de voir les choses. » « Il a dû être infidèle à sa femme, et bien vite, » dit Isabelle, cessant soudain de pleurer. « Voilà ce qui manquait, que vous preniez sa cause en main, » admira la comtesse. « Je suis d'ailleurs entièrement d'avis avec vous que c'était beaucoup trop tôt. »« Mais à moi !» Isabelle hésita comme si elle n'avait pas entendu, comme si sa question, malgré l'importance qu'elle prenait à ses yeux, ne se fût posée qu'à elle seule. « À vous, s'il vous a été infidèle ? Oh, tout dépend, ma chère, de ce qu'on appelle infidélité. » Quand il vous a épousé, il n'était plus l'amant d'une autre. L'amant que lui permettait d'être, car ami, à les dangers et leurs précautions, tant que l'aventure a duré. Cet état de choses avait cessé. La dame s'était repentie, ou en tout cas ressaisie, pour des raisons à elle. Elle avait d'ailleurs eu toujours un tel respect des apparences qu'Osmonde lui-même avait fini par en être excédé. Vous pouvez imaginer ce qui lui en coûtait de ne pouvoir décemment appliquer à la situation l'un de ses sujets de préoccupations ordinaires. Mais tout le passé était entre eux. « Oui, répéta machinalement Isabelle, tout le passé est entre eux. »« Oh, le passé récent est sans importance, mais pendant 5 ou 6 ans, je le répète, ils s'en sont donnés. » Isabelle resta un moment silencieuse. « Pourquoi a-t-elle donc voulu qu'il m'épousât ?»« Ah, ma chère, voilà où elle s'est montrée supérieure, parce que vous aviez de l'argent et parce qu'elle a compris que vous seriez bonne pour sa fille. »« Pauvre femme !» Et pensez qu'il ne l'aime pas, s'écria Isabelle. C'est la raison même qui lui a fait chercher quelqu'un que pensez aimerait. Elle le sait, elle sait tout. Saura-t-elle que vous venez de me raconter cette histoire? Cela dépend de ce que vous lui direz. Elle est préparée à cette révélation. Et savez-vous ce qu'elle escompte pour sa défense? Votre conviction que je mens. Peut-être le croyez-vous, et peut-être n'avez-vous pas besoin de vous en cacher. Seulement, il se trouve que cette fois je ne mens pas. J'ai souvent inventé des petites histoires idiotes, mais elles n'ont jamais fait de mal qu'à moi-même. » Isabelle considérait l'aventure que venait de lui conter sa belle-sœur comme un ballot de marchandises fantastiques qu'un marchand ambulant aurait pu dérouler à ses pieds sur le tapis. « Pourquoi Osmonde ne l'a-t-il jamais épousée ? » demanda-t-elle enfin. « Parce qu'elle n'avait pas d'argent. » La comtesse avait réponse à tout, et si elle mentait, elle mentait bien. Personne ne sait, personne n'a jamais su de quoi elle vit, ni d'où elle a tiré ses précieuses collections. Je crois qu'Osmonde lui-même l'ignore. D'ailleurs, elle ne l'aurait pas épousée. Comment peut-elle l'avoir aimée alors? Elle ne l'aime pas comme vous l'entendez. Elle a pu l'aimer au premier temps et l'aurait sans doute épousée si son mari n'avait pas vécu. Mais lorsque Monsieur Maire le rejoignit, je ne dirai pas ses ancêtres, car il n'en a jamais eu, ses rapports avec Osmonde s'étaient modifiés et ses ambitions avaient grandi. D'ailleurs, poursuivit la comtesse, en lançant un trait empoisonné qui devait faire cruellement souffrir Isabelle. D'ailleurs, elle ne s'était jamais fait sur son compte des illusions d'intelligence. Elle espérait épouser un grand homme, c'était son ambition de toujours. Elle avait attendu, guetté, intrigué, prié, sans jamais parvenir à ses fins. Je ne considère pas sa vie comme un succès, et vous? Je ne sais à quoi elle pourra parvenir, mais jusqu'ici elle n'a pas grand-chose à montrer. Le seul résultat tangible qu'elle ait obtenu, en dehors de connaître tout le monde et de faire chez les gens des séjours gratuits, a été de vous mettre en présence d'Osmonde. Oh, c'est bien son œuvre, ma chère. Inutile de me regarder comme si vous en doutiez. Je les ai vus manœuvrer pendant des années, je sais tout, tout. On me prend pour une linotte, mais j'ai assez de suite dans les idées pour pénétrer leurs entreprises. Elle m'exècre, et sa façon de le montrer est de toujours prendre ostensiblement ma défense. Quand on m'accuse d'avoir eu 15 amants, elle prend l'air horrifiée et déclare qu'une bonne moitié de la liste est apocryphe. Elle a eu peur de moi pendant des années et s'est sentie grandement réconfortée par les vils mensonges qu'elle entendait proférer sur mon compte. Elle craignait de me voir dénoncer ses machinations et m'a menacée un jour, lorsque ce monde commençait à vous faire la cour. C'était dans sa maison de Florence, cet après-midi où elle vous y avait conduite et où l'on a pris le thé dans le jardin. Elle m'a déclaré que si je racontais des histoires, elle saurait ce qu'il lui restait à faire. Elle prétend qu'il y en a bien plus long à dire sur mon compte que sur le sien. La comparaison serait intéressante à faire. Je ne me soucie pas le moins du monde de ce qu'elle peut dire, parce que je sais combien vous vous en moquez aussi. On ne saurait pas se faire moins de soucis à mon sujet que vous ne vous en faites déjà. Alors, elle peut bien se venger comme il lui plaira. Je ne crois pas qu'elle puisse vous effarer beaucoup. Son idéal a toujours été de se montrer parfaitement irréprochable, un grand lys immaculé, l'incarnation des convenances. C'est le dieu qu'elle a toujours adoré. La femme de César ne doit pas être soupçonnée, n'est-ce pas? Et, comme je vous l'ai dit, elle s'est toujours flattée d'épouser César. Première raison pour ne pas épouser Osmonde. Elle avait peur qu'à l'avoir près de penser, on ne fît des rapprochements, on ne vit même une ressemblance. Elle avait la terreur que la mère ne se trahît. Mais elle a bien pris ses précautions, et la mère ne s'est jamais trahie. Si, elle s'est trahie, interrompit Isabelle, dont le visage pâlissait à mesure que se déroulait l'histoire. Elle s'est trahie l'autre jour, sans que je m'en aperçusse d'ailleurs. L'occasion d'un beau mariage semblait s'offrir pour penser, et dans son désappointement que la chose ne se fût pas faite, elle a failli laisser tomber le masque. Ah, C'est là que le bât la blesse, cria la comtesse. Sa faillite à elle a été si lamentable qu'elle est bien décidée à se rattraper dans la personne de sa fille. Ces mots, sa fille, lancés si familièrement, firent tressaillir Isabelle. Quelle étonnante histoire, murmura-t-elle, avec une telle impression de stupeur qu'elle en perdait presque le sentiment d'être elle-même touchée par l'intrigue. Maintenant, vous n'allez pas vous tourner contre une pauvre enfant innocente, reprit la comtesse. Elle est extrêmement gentille en dépit de sa déplorable origine. Moi, j'aime penser, non parce qu'elle est sa fille à elle, mais parce qu'elle est devenue la vôtre. Oui, elle est devenue la mienne, et comme la pauvre femme a dû en souffrir, s'écria Isabelle, que cette seule pensée fit rougir. Je ne crois pas qu'elle ait souffert. Je suis convaincue qu'elle a été enchantée, au contraire. Le mariage d'Osmonde a fait gravir plusieurs échelons à sa fille. Avant cela, elle restait dans un trou. Et savez-vous l'espoir de sa mère? Que vous prendriez assez de goût à l'enfant pour faire quelque chose pour elle. Osmonde ne pouvait évidemment pas la doter. Il était bien trop pauvre pour cela. Mais là, je ne vous apprends rien. Ah, ma chère, s'écria la comtesse, pourquoi avez-vous fait cet héritage? Elle se tut un moment, comme si elle avait vu une expression inattendue sur le visage d'Isabelle. « Maintenant, ne me dites pas que vous allez lui donner une dot. Vous en êtes bien capable, mais je me refuserai à le croire. Ne tâchez pas d'être trop bonne. Laissez-vous être un peu dégagée, un peu naturelle, un peu méchante. Offrez-vous une fois dans votre vie le luxe d'une certaine perversité. » « Tout cela est bien étrange, dit Isabelle. Sans doute est-il bon que je sois informée, mais je n'en ai pas moins de peine. Je vous suis bien obligée. » « Oui, vous en avez l'air, s'écria la comtesse avec un rire d'ironie. Il est possible que vous me sachiez gré, possible que vous m'en vouliez. Vous ne prenez pas la chose comme je m'y attendais. Comment faut-il la prendre ? Demanda Isabelle. « Oh, comme une femme dont on a abusé !» Isabelle ne répondit pas et se contenta d'écouter la comtesse qui poursuivit. Ils sont toujours restés très liés, même après la rupture que l'un ou l'autre a provoquée. Elle s'est toujours plus souciée de lui que lui d'elle. Une fois terminé leur petit carnaval, ils ont convenu que chacun laisserait pleine liberté à l'autre, et que chacun ferait aussi son possible pour aider l'autre. Vous pourriez me demander comment j'ai connu pareil marché. J'y ai conclu, de la façon dont ils se sont comportés. Seulement, voyez combien les femmes valent mieux que les hommes. Elle a trouvé une femme à Osmonde, alors qu'il n'a jamais levé le petit doigt pour elle. Elle s'est donné du mal, a intrigué, souffert pour lui. Elle lui a même à diverses reprises procuré de l'argent. Et le fin mot de l'histoire, c'est qu'il a assez d'elle. Elle représente une vieille habitude. Il y a des moments où il éprouve le besoin d'elle, mais, au total, elle ne lui manquerait guère si elle venait à disparaître. Et le mieux, c'est qu'elle le sait maintenant. Allez, vous n'avez pas lieu d'être jalouse, conclut la comtesse avec sérénité. Isabelle se releva. Elle se sentait meurtrie et manquait de souffle. La tête lui tournait. « Je vous suis bien obligée, » reprit-elle, puis elle s'enquit brusquement sur un ton tout différent. « Comment savez-vous tout cela ?» Cette question parut froisser la comtesse plus que ne l'avait satisfaite l'expression de gratitude. Elle lança à sa belle-sœur un regard provoquant. « Admettons que je l'ai inventé, » s'écria-t-elle. Mais changeant non moins soudainement de ton, elle posa une main sur le bras d'Isabelle et lui demanda avec un sourire pénétrant. « Et maintenant, allez-vous renoncer à votre voyage ?» Isabelle tressaillit et se détourna légèrement. Elle se sentait épuisée et dut, pour se soutenir, poser un bras sur la cheminée. Elle resta ainsi une minute, puis, les yeux fermés et les lèvres pâles, laissa tomber sur son bras sa tête bourdonnante. « J'ai eu tort de vous parler, je vous ai fait mal !» s'écria la comtesse. « Ah ! Il faut que je voie Ralph !» gémit Isabelle, moins avec le ressentiment ou la colère violente que prévoyait la comtesse, que sur un ton de profonde, d'infinie détresse.